Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h ce matin sur BFM Business, on entame la deuxième heure de BFM Patrimoine, dernière séance de la semaine, dernière séance du trimestre aussi avec ce marché parisien qui progresse ce matin, plus 1,11%, 5 739 points, hausse qui prévaut aussi ailleurs en Europe, même si c'est peut-être un petit peu moins fringant. L'Eurostock 50 ne gagne que 0,8% pour le moment. Du côté des principaux arbitrages, on a de la hausse sur un certain nombre de titres que l'on peut regarder ce matin, notamment du côté d'Unibail-Rodamco, qui s'empare de la tête du CAC 40, plus 4,32%, 42,03. Suivent Saint-Gobain, Publicis, ArcelorMittal, Alstom, Total Energy. Au total, c'est une dizaine de titres qui s'adjugent ce matin, plus de 2%. Et puis, quelques baisses également, que l'on peut regarder en ce moment. Elles sont assez peu nombreuses, c'est vrai, au sein de l'indice CAC. On en compte 4 pour le moment. Kering qui perd 0,85% à 451,20. Hermès, moins 0,46 à 1202. STMicro, moins 0,2. Et puis Thales, moins 0,13%. Du côté des devises, l'eurodoll est à 98,35. Et puis un petit coup d'œil aussi sur le pétrole qui baisse 88,39. Je vous rappelle le CAC qui progresse d'un 0,6%, 5 737 points. Voilà pour les marchés. Tout de suite, un coup d'œil sur l'Info Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, Bruno Le Maire convoque les énergéticiens ce mercredi à Bercy. Le ministre de l'économie va leur demander des efforts supplémentaires pour garantir des prix raisonnables aux PME sur Europe 1. Il a directement cité Total Energy, Engie et EDF. D'ici là, une nouvelle réunion de crise des ministres européens de l'énergie est organisée aujourd'hui pour faire baisser les prix. Les 27 vont annoncer un accord sur 3 mesures pour soulager ménages et entreprises. Le plafonnement des revenus des producteurs d'électricité, une taxe sur les super-profits dans les énergies fossiles et des objectifs chiffrés en matière de sobriété énergétique. En attendant, l'inflation ralentit en France en septembre. Les prix progressent de 5,6% sur un an selon l'estimation provisoire de l'INSEE, contre une hausse de 5,8% en août. Dans le détail, les prix de l'énergie et des services ralentissent, mais ceux de l'alimentation et des produits manufacturés s'accélèrent. Et pour ce qui est de la consommation des ménages, elle est restée totalement stable en août après un mois de juillet en baisse. Au Royaume-Uni, le PIB est finalement revu à la hausse au deuxième trimestre. La croissance progresse de 0,2% contre une prévision en recul de 0,1%. Mais une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui avec Liz Truss. Selon le Guardian, le gouvernement va être informé de nouvelles prévisions de croissance et de déficit. Dans l'actualité entreprise, la bataille pour le rachat d'M6 tourne au duel avec Niel Berlusconi d'un côté, Courbis Saadé de l'autre. Les duos auraient mis autour d'1,2 milliard d'euros sur la table. Et la décision est imminente puisque le patron de Bertelsmann, actionnaire d'M6, sera à Paris ce week-end. Valneva annonce ce matin une augmentation de capital. Le laboratoire franco-autrichien va lever 103 millions d'euros. Objectif, financer ses vaccins contre la maladie de Lyme et contre le virus du chikungunya. Pardon. Atos rejette une offre sur ses activités digitales et de cybersécurité. Un rejet à l'unanimité du conseil d'administration. L'offre était formulée par OnePoint, société de services informatiques alliée à un fonds d'investissement anglo-saxon pour 4,2 milliards d'euros. Et puis aux États-Unis, Meta gèle les embauches. La maison mère de Facebook et Instagram prévoit un budget 2023 très serré selon le Wall Street Journal. Le groupe a publié en juillet un chiffre d'affaires trimestriel en baisse pour la première fois de son histoire.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collo qui nous accompagne chaque heure pour suivre cette information économique. Le marché parisien, lui, vit sa dernière séance de la semaine et du trimestre. Pour le moment, dans le vert, on progresse d'1%, 5 732 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Regard Croisé qui accueille ce matin Sandrine Covin. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour OTA Capital et Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là ce matin. Bon, on a pas mal de chiffres d'inflation là pour terminer le mois et le trimestre avec deux tonalités différentes. Cocorico avec la France qui limite les dégâts et aïe 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 avec l'Europe. Ça y est, on a franchi la barre des 10%. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est acteur de marché et qu'on voit comme ça l'inflation européenne qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe? Ça ne suffit pas de regarder la France, là. On est inquiet quand même, non?
Bah oui, on est inquiet. Ça fait déjà un petit moment qu'on voit que l'inflation, d'une manière générale, monte un peu partout dans le monde. Il y a deux différences entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. L'inflation européenne, elle est essentiellement exogène. On le sait, hein, c'est lié à cette crise énergétique, ce problème qu'on a sur l'offre de pétrole et de gaz, et en particulier du gaz. Et on voit bien que les chiffres qui ont été publiés hier par l'Allemagne sur l'inflation viennent essentiellement de cette composante-là. Donc, par comparaison, si vous regardez l'Espagne, qui a fait un peu mieux par rapport à l'Allemagne hier, la raison essentielle, c'est que l'Espagne, tout comme le Portugal, est sortie, vous savez, du système de tarification européen sur le gaz, parce que c'est une exception ibérique. Ils ont beaucoup de renouvelables et ils ont un problème de connexion. Ils ne peuvent pas être alimentés par l'Europe. Et comme le prix du gaz, et enfin, surtout de l'électricité, est lié au coût marginal de la dernière unité qui est en production, et en général, c'est des centrales à gaz, le Portugal et l'Espagne ont bénéficié de cette exception. Donc c'est pour ça qu'on voit que il y a une amélioration. Mais des pays, là on parle en plus de l'Allemagne qui est à 10%, mais je rappelle que les pays baltes, on est plutôt sur du 20%. Oui, donc au niveau de l'Union européenne, il y a vraiment de gros sujets sur l'inflation qu'il va falloir attaquer. Là j'entendais effectivement il y a des réunions d'urgence pour voir comment on peut mettre en place des dispositifs. Mais effectivement, c'est très important parce que avec les attaques qu'il y a eu récemment sur les gazoducs, va falloir trouver des alternatives. Je pense que on n'a pas trop d'inquiétude pour cet hiver. Si, pas trop d'inquiétude parce qu'on a quand même réussi à remplir les réserves. Mais quid de comment on va remplir dans le futur, de trouver des alternatives si on n'arrive pas à s'approvisionner via ces infrastructures.
Oui, dont on ne sait même pas si on pourra les réparer, là,
apparemment, j'ai entendu ce matin qu'effectivement, en Norvège, la mer Baltique, il ne serait pas réparable. Oui.
Comment vous voyez les choses, Frédéric, là, quand on voit Eurostat qui nous dit 10%, hein,
Oui, l'inflation est un énorme problème en Europe. Alors, ce n'est pas tout à fait le même qu'aux États-Unis. Hein. C'est la facture énergétique qui monte de façon extrêmement, extrêmement élevée et dont le principal impact, plus que sur la Banque centrale, c'est un impact direct sur la croissance économique. Hein. On va avoir simplement une perte de pouvoir d'achat massive des ménages et puis de grandes difficultés pour les marges des entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie. C'est évidemment un des trois gros problèmes des marchés aujourd'hui. Il a été encore renforcé par les attentats perpétrés contre les gazoducs. Je pense que ça donne d'une part effectivement un risque assez important, peut-être une certaine incertitude en plus sur finalement ce que va faire la Banque centrale. Parce que la Banque centrale, elle sait bien que oui, c'est un choc exogène, mais si c'est durable, ce choc exogène, à travers les subventions qui vont être données, à travers le fait aussi que le chômage, l'emploi est plutôt fort en Europe, donc peut-être les entreprises vont devoir céder aussi sur les hausses de salaire, parce qu'il va bien falloir que les gens quand même bouclent leur fin de mois. Eh bien, on risque d'avoir quand même un effet d'entraînement de cette inflation. Donc, non seulement un choc très très fort sur la croissance, mais peut-être en plus, ça va finir par influencer la Banque Centrale Européenne, qui en plus, aujourd'hui se sent très très en retard sur sa politique monétaire. Donc beaucoup de mauvaises nouvelles là-dessus, pas beaucoup de réconfort, et en plus beaucoup de doutes sur ce qui peut se passer, parce qu'effectivement on va passer l'hiver, mais enfin après un hiver il y en aura un autre, ça je pense que c'est relativement
normalement si tout va bien. Frédéric,
on peut être d'accord là-dessus au moins, voilà, mais c'est un peu la seule certitude qu'on ait aujourd'hui, et donc voilà, ces soucis vont reprendre, et voilà, après on peut faire des paris, des anticipations sur la guerre en Ukraine, mais je pense que là-dessus on est aussi sur des doutes extrêmement importants.
Il y a aussi des cas un peu préoccupants là, l'Angleterre, la question italienne, enfin l'Angleterre de voir un pays membre du G7 se faire tancer par le FMI.
Oui, c'est un petit peu humiliant, ouais. Effectivement. Je pense que
on revient dans les années 70.
Ce nouveau gouvernement n'a pas du tout anticipé les répercussions que pouvait avoir ce plan, cette baisse d'impôts et puis ces efforts, enfin pardon, ces plafonnements sur les prix de l'énergie. Dans un environnement où effectivement aujourd'hui la Grande-Bretagne n'est pas le pays à ce que je sache qui est le plus où les taux sont les plus élevés au niveau de la fiscalité, donc il n'y avait pas forcément
d'urgence
à faire on a vu les répercussions que ça a eu, et je suis pas totalement sûre qu'on a vu la totalité, parce qu'il y a des hedge funds qui se sont retrouvés en difficulté et à la limite à mon avis de faire faillite, ils ont eu des grosses pertes, ça c'est encore un risque qui est présent, et on va voir comment va se comporter effectivement la Banque d'Angleterre, mais dans cet environnement inflationniste, là où l'inflation est très forte en Grande-Bretagne, je vois pas comment la Banque d'Angleterre peut continuer son quantitative easing sans que ça vienne solutionner ce problème d'inflation.
Comment prendre la mesure de cette problématique britannique là? Effectivement, on a l'impression de se retrouver au tournant des années 70-80, avant l'arrivée de Margaret Thatcher.
C'est une politique effectivement un peu étrange qui a été mise en place par le nouveau gouvernement britannique. Alors, en 2016, quand Donald Trump fait une politique qui peut s'approcher de ça, enfin, on est en pleine croissance, les taux de financement sont relativement bas, puis c'est le dollar.
On
arrive à se financer, et là, on est quand même dans un pays qui a une inflation qui est extrêmement forte et qui a des difficultés commerciales. Ils sont sortis de l'Europe, ils n'ont pas encore signé d'accords commerciaux significatifs, donc c'est un pays quand même qui a une certaine fragilité. Donc aller dans cette direction, ça nous a paru très 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 étonnant. Et alors ça, c'est le mauvais côté des choses. Ce qu'on remarque, si on a envie d'être un petit peu optimiste, je pense qu'il faut commencer sur ces niveaux de valorisation à essayer de trouver quand même des raisons d'espérer. Alors on va pas être acheteur tout de suite, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand une banque centrale se trouve en face d'un risque systémique, c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est des risques systémiques, comme celui de l'effondrement du sterling et des financements gilt, avec peut-être des problèmes sur les hedge funds et puis des fonds de pension britanniques qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Donc on touche au systémique. On voit quand même que la banque centrale d'Angleterre revient, et là où ils voulaient réduire leur bilan, ils achètent en masse des obligations. Donc on voit bien, et ça va se... on va peut-être parler plus tard de la hausse du dollar, des difficultés que ça peut poser au système financier mondial. On voit quand même que les banques centrales peuvent encore intervenir. Et c'est le point positif que j'ai envie de garder dans tout cet environnement pour le moins délicat aujourd'hui.
Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème italien ?
Problème italien, il est un peu compliqué à appréhender, parce que c'est une coalition qui a gagné de droite, effectivement avec la Ligue qui est la plus virulente, en tout cas ce qu'on dit, c'est un gouvernement néo-fasciste qui est arrivé au pouvoir, mais faut pas oublier que les Frères d'Italie et Forza Italia, c'est quand même alors la Ligue a fait je crois 9 ou 10%, Frères d'Italie ont fait 26%, donc il y a quand même une
rapport de force est là.
Le rapport de force il est posé, et il me semble que ces partis-là sont conservateurs mais aussi libéraux, et qu'au niveau économique, je pense que ça va être compliqué de mettre en place les promesses qui ont été mises en avant par la Ligue. Là, encore une fois, les baisses d'impôts. Donc, je suis pas trop inquiète sur ce volet-là. Après, il se passe quand même quelque chose en Europe. Hein. Il commence à y avoir un axe, Pologne, Hongrie, Italie. Il y a des élections prochainement en Bulgarie. Voir un petit peu comment ça se passe au niveau européen. Je pense qu'il va y avoir des tests là au niveau de est-ce qu'on est sur une Europe ou une
aussi,
Europe des nations. Comment ?
On peut remonter jusqu'à la Suède.
Ah oui, exactement. Voilà. Donc, il va y avoir. Je le vois plus sur le front. Comment ça va se passer avec toutes ces déclarations qui
plutôt
sont
qu'un problème italien.
Plutôt qu'un problème. Alors, ben, ils ont leur propre problème, mais il va y avoir. Il va falloir prendre des mesures, ça. Mais il me semble quand même que au sein de cette coalition, il y a des représentants qui sont plutôt libéraux au niveau de l'économie.
Ouais, moi
c'est vrai que les trois là, enfin parce que oui. Frère d'Italie entre guillemets, c'est l'ancien MSI.
Exactement.
Donc Forza Italia, MSI, la Ligue, on a déjà vu des coalitions comme celle-là être au pouvoir en Italie sans que ça n'émeuve personne à ce moment-là.
Oui, je pense que voilà, on va probablement avoir beaucoup de déclarations, on va y avoir effectivement voilà, on a vu même récemment madame Meloni parler de d'Emmanuel Macron en des termes assez on va dire assez vifs. Mais néanmoins voilà, je serais assez d'accord, on a
Liz Truss aussi remarqué.
Ouais, voilà. Donc, bon. Oui, en tout cas, les dirigeants se parlent entre eux, voilà, d'une façon un petit peu plus verte. Et c'est un petit peu ça qui est plus inquiétant que l'Italie en elle-même, qui de toute façon va avoir besoin de se financer et qu'on va continuer de financer aussi, parce que voilà, personne n'a envie d'un défaut ou d'une implosion d'un aussi grand pays de la zone euro. Donc voilà, tout ça, c'est de la négo en fait. Hein. Donc nous, on n'est pas inquiet à très court terme sur un défaut italien. On pense voilà. Que ça va être volatile, mais peut-être à terme effectivement on voit une glissade politique vers des gouvernements finalement dont la vocation européenne est de plus en plus discutée. Alors voilà, ils sont toujours aujourd'hui officiellement pour, mais ben, on sent bien quand même que
dire qu'on a du mal à dire quand moins, on est à la tête de l'Italie, non, à 191 milliards qui tombent tout cuit quoi.
Voilà, donc il faudra
non mais ça aide à
voilà, oui ça fait réfléchir, ouais, oui,
ça fait aide à mieux apprécier l'Europe quoi.
Voilà.
L'Europe justement et la Banque Centrale Européenne, parce que nos banques centrales nous occupent aussi beaucoup. On a vu la cadence maintenue par la Réserve Fédérale qui fait pas vraiment les affaires a priori de la Banque Centrale Européenne. Et hier, c'est Olli Rehn qui a un peu mis les pieds dans le plat en disant 50, 75 ou autre chose la prochaine fois, mais il faudra, entre guillemets, être dynamique. C'est quoi autre chose? C'est 25?
Honnêtement, c'est vague. On ne sait pas. 100, c'est peut-être. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la BCE est obligée de marcher dans les pas de la Fed, ne serait-ce que pour la parité. On a bien vu que c'est la Fed est en avance et que nous, derrière, l'euro. Alors le dollar s'apprécie par rapport à toutes les devises. Hein, c'est pas
c'est
que
ça.
L'euro. Mais il y a ce souci de parité et quelque part, la BCE n'est pas et n'a pas le choix, elle est obligée de suivre. Et je pense que c'est un peu toujours la même histoire sur les marchés financiers. C'est quand même un peu les États-Unis qui drive les choses. Il va falloir regarder comment ça se passe de ce côté-là. Il commence là aussi à y avoir des représentants de la Fed qui sont un peu plus modérés que les faucons, parce qu'on commence à voir hein, là il y a CarMax hier qui est un vendeur de voitures d'occasion hein, aux États-Unis qui a expliqué qu'il y avait une forte baisse des ventes de voitures d'occasion. Alors on peut aussi se dire les gens se tournent vers l'électrique parce que comme l'électrique repart, les chaînes d'approvisionnement ça peut être, mais il n'y a pas que CarMax, il y a d'autres acteurs de la consommation aujourd'hui aux États-Unis qui commencent à dire on sent des signaux de fébrilité. Il y a FedEx, hein, je vous rappelle, qui avait fait un profit warning il y a quelques jours. Donc on commence quand même à voir des choses. Ça va être l'immobilier qu'il va falloir surveiller aux États-Unis, parce que pour l'instant, on a quand même l'impression que ça tient, mais il y a toujours une inertie. On va voir comment ça se passe au niveau de la signature des prochains contrats de loyer et puis au niveau des transactions. Mais je pense que le regard est vraiment tourné sur la Fed. C'est eux qui dictent un petit peu les choses, et nous derrière, même si on a une inflation qui est différente, hein, ça l'a été souligné. Chez eux, c'est plus une inflation liée à la demande. Chez nous, c'est une inflation liée à un problème d'offres et essentiellement crise énergétique.
Frédéric, Olli Rehn, il nous promet quoi, 25 ou 100?
Oui, alors je pense qu'ils sont plutôt
quoi, autre
orientés.
Chose
moi, je pense qu'ils sont plutôt orientés vers l'accélération aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Bon, voilà, parce
c'était juste pour pas dire 100, quoi.
Voilà, parce que bon, voilà, on connaît la situation de notre monnaie, très dévalorisée par rapport au dollar. Enfin, au dollar essentiellement. Hein, elle se tient correctement par rapport aux autres monnaies. Donc, un euro quand même qui est un peu problématique. Et puis voilà, on monte ses taux. Enfin, dans un environnement extrêmement inflationniste, on est très très loin de l'objectif, très en retard. Donc, il est assez naturel que la BCE accélère. Je ne suis pas sûr que ça... Ce n'est pas quelque chose qui doit tellement nous rendre très inquiets, je pense, sur la croissance, parce que les taux restent extrêmement bas aujourd'hui hein, par rapport à l'inflation. On voit d'ailleurs que le crédit reste plutôt correctement dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui en Europe. Donc je pense que l'intérêt aujourd'hui de la BCE, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de coller à la Fed pour essayer de maintenir un euro correct. Et puis peut-être retrouver des marges de manœuvre au moment où il faudra rebaisser les taux parce que voilà l'économie partira vraiment en grande difficulté. Donc nous, on a l'impression que la BCE devrait accélérer, mais je pense que là, ça commence à être bien bien dans le marché. Ça, je suis pas trop inquiet sur les marchés en raison de l'accélération de la BCE. Ce serait plutôt les chiffres économiques qui vont venir qui sont plus inquiétants.
Mais du coup, nos marchés, là, on termine le mois, on termine le trimestre, on termine la semaine. On se dit quoi quand on se voit à ce niveau-là? On se dit, on a touché les plus bas, il y a des raisons d'espérer ou au contraire, restons prudents
Toujours compliqué de dire qu'on a touché les plus bas, surtout avec la période dans laquelle où on est, où c'est un peu le brouillard, même si on a de la visibilité entre guillemets parce qu'on sait que du côté des banques centrales le message est clair, on va continuer. Il peut y avoir quand même encore des mauvaises surprises qui pourraient arriver. J'entendais tout à l'heure là juste avant, vous aviez des intervenants qui parlaient des estimations des entreprises de bénéfices par les analystes. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont à la traîne avec une récession qu'on va avoir l'an prochain, on ne peut pas avoir une croissance de 3% des bénéfices en Europe, c'est pas possible. On sera plutôt de l'ordre de moins 10, moins 15, on verra selon effectivement les analystes et les sociétés sont de toute façon toujours en retard. Hein. C'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un niveau de marché à 10 ou 10,5, là, le PE, c'est pas très élevé. Et quand on regarde certaines valeurs, on est vraiment à la casse. Je vais vous donner un exemple. Stellantis. Aujourd'hui, Stellantis, trois fois le price earning. C'est vraiment, quand bien même il y a des difficultés qu'on connaît dans le secteur de l'automobile, même Saint-Gobain, une société comme Saint-Gobain, qui est une belle société dans la construction, effectivement, est en difficulté. On va pas, mais il me semble qu'il y a des opportunités, justement, pour revenir sur des dossiers qui ont bien souffert, et qui, profiteront au moment où on aura une embellie, on aura plus de visibilité sur l'économie pour reperformer. Et après, il y a des belles pépites hein, aussi qui sont intéressantes à regarder après ces baisses récentes. Je pense du côté des énergies renouvelables notamment. Oui.
On reviendra peut-être sur quelques pistes à travailler. Vous vous dites quoi aussi, qu'on est quasiment au plus bas ou qu'il y a des raisons d'espérer?
Alors nous, on est toujours prudents hein, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que les valos sont absolument extraordinairement faibles. Il y a des exemples là, qui viennent d'être donnés. Donc je pense que sur un investissement, par exemple, à 12-24 mois, c'est clairement pas idiot de revenir sur les actions. Mais à court terme, nous, on pense que voilà, la situation va être encore extrêmement volatile et probablement encore baissière. Pourquoi? Parce que les raisons de la baisse sont toujours là, en fait. Hein. Raisons de la baisse, la Fed et d'autres banques centrales qui la suivent sont en train de resserrer leur politique monétaire. Ça sera là le mois prochain. Les PMI des pays développés sont en train de baisser. Il y a un ralentissement, probablement encore le mois prochain. Les bénéfices commencent à être vus à la baisse. Ils vont continuer d'être vus à la baisse le mois prochain. Donc, je dirais que voilà, on manque aujourd'hui d'arguments pour s'accrocher, mis à part les valorisations, à dire voilà, c'est le moment voilà d'acheter. Donc, nous, on attend aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à acheter. Peut-être finalement, on va découvrir la prochaine saison des profits que ça n'a pas si mal tenu que ça, mm-hmm. hein, que les analystes, enfin, le marché est très en avance sur la décision des analystes. Finalement, les analystes n'avaient peut-être pas si tort, voire avaient raison. Donc ça peut être une raison d'acheter, mais il faut attendre. Ça peut être aussi peut-être un bon chiffre d'inflation aux États-Unis. C'est vrai que voilà, l'accélération de la baisse, ça a été quand même cette fameuse inflation sous-jacente qui d'un seul coup se met à remonter. On se dit, voilà, du coup, la Fed est là, il faudra peut-être rester plus haut, plus longtemps. Donc, si ça se met à rebaisser, bien, peut-être là, la Fed va se dire, voilà, l'inflation rebaisse, j'en ai peut-être assez fait, alors elle ne va pas baisser assez vite. Mais en tout cas, elle est dans la bonne direction. Donc, ça peut donner un souffle au marché. Et puis, peut-être aussi, alors, penser à ça, c'est on commence à avoir quand même une remontée du risque systémique. Hein, et donc, à un moment donné, peut-être les banques centrales vont se parler et vont parler dollar, hein, niveau du dollar. On a vu, voilà, il y a des interventions de la banque centrale chinoise, il y a des interventions de la banque centrale japonaise. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont quand même calmer cette spéculation sur le dollar qui finit par s'auto-entretenir. Hein. Plus le dollar monte, plus ça devient dangereux pour le système financier mondial. Plus ça devient dangereux pour le système financier mondial, plus j'ai envie d'acheter du dollar. Donc là, on est peut-être dans une situation où on peut avoir une intervention conjointe des banques centrales. Trop tôt pour peut-être en parler, je sais pas. Hein, mais on sent quand même que ça peut frémir de ce côté-là. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, pas de bonne nouvelle. On revient pas sur les marchés.
Alors justement, vous vouliez nous donner quelques pistes sur lesquelles on peut... C'est quoi les opportunités du moment, du coup?
Les opportunités, nous, on ne change pas de discours. On gère des fonds actions, donc de toute façon, on est obligé d'être investi. Après, pour des particuliers, des personnes à qui on s'adresse aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut peut-être attendre, avoir de la prudence, comme le disait Frédéric. Il peut y avoir encore de la baisse. Si on se projette sur un horizon long terme, on a quand même aujourd'hui de belles opportunités de commencer à se positionner. Et donc je vous citais le secteur des énergies renouvelables. Là, il faut aussi être très sélectif parce que il y a beaucoup de choses, mais il y a des sociétés qui sont aujourd'hui pas encore très matures. Il y a beaucoup de phases d'investissement, ils sont en perte et nous, on est plutôt prudents sur ces... Mais j'avais un dossier en tête là que j'aime bien, qui s'appelle Alphen, qui est dans les batteries électriques et les systèmes intelligents de stockage d'énergie, enfin les réseaux intelligents, stockage d'énergie. C'est une société qui se payait, là, au plus haut des marchés, 40 fois les EBITDA. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on est descendu à 18 fois. Donc vous voyez, déjà, c'est une société profitable, elle a rappelé. C'est 15% de marge d'EBITDA. C'est une société aussi qui, quand elle a publié ses résultats au premier semestre, a relevé ses estimations, enfin ses prévisions, parce que c'est une société qui est très agile aujourd'hui. Elle a démontré sa capacité à bien gérer ses chaînes d'approvisionnement. Ils produisent en Europe et ils nous démontrent que de produire en Europe, en fait, c'est un avantage compétitif plutôt que de produire en Asie, où il y aurait des coûts de transport. Et donc, nous, c'est une société qu'on aime bien, hein, vous l'aurez compris, et il me semble que c'est intéressant de regarder. Et puis après, je vous ai cité Stellantis, mais il y a la pharma, enfin il y a pas mal d'autres secteurs qu'on peut regarder.
C'est quoi vos opportunités du moment?
Alors nous, on est sur le secteur de la santé et notamment des biotech, hein, avec quand même l'idée que on est quand même assez proche du moment où voilà les investisseurs vont dire voilà la Fed en a assez dit, donc c'est plutôt pas trop mal pour les valeurs de croissance comme les biotech. Puis en plus on a voilà des très très belles innovations, beaucoup de traitements en cours de validation. Et puis on aime bien le secteur des énergies propres aussi, qui lui voilà reste quand même poussé par des plans multipliés, voilà, que ce soit la Chine, les États-Unis ou l'Europe. Et puis cette volonté d'indépendance énergétique qui en sort évidemment renforcée avec la crise que nous connaissons. Et enfin, le secteur de la sécurité aussi peut être intéressant, cybersécurité notamment, avec voilà l'augmentation des menaces dues aux troubles géopolitiques, puis le travail à la maison aussi qui évidemment donne énormément d'opportunités aux hackers pour aller chercher, rançonner notamment les entreprises ou les particuliers. Donc voilà, il y a quand même des secteurs qui sont intéressants. Et puis géographiquement, on aime bien le Japon. Alors je sais que voilà, ça peut faire sourire les gens de ma génération.
Certains.
Voilà, parce qu'ils disent voilà, on me l'a déjà fait. Mais on trouve ça assez intéressant. Le Japon est sorti du confinement un petit peu plus tard, donc il y a un momentum économique qui est un peu meilleur. Je dis un peu meilleur, mais nettement meilleur qu'en Europe ou aux États-Unis. Et puis une banque centrale qui est moins pressée quand même, hein, parce que bon, l'inflation remonte, mais enfin, on aimerait bien avoir l'inflation japonaise. En tout cas aujourd'hui, pour une fois. Et donc une banque centrale qui a toute patience. Et puis enfin, alors on peut dire que les gens sont pessimistes hein, sur les actions européennes, américaines, mais alors sur le Japon, il n'y a plus personne. Hein. C'est totalement sous-investi. Et on a remarqué par le passé que, alors là, il faudrait qu'on ait raison hein, d'abord sur le début du rallye, mais que les investisseurs internationaux rentrent assez vite sur ce marché quand ils voient qu'ils commencent à performer parce qu'ils sont tout simplement peu investis sur le marché.
Merci à tous les deux. Sandrine Covin et Frédéric Rollin étaient ce matin en plateau. Merci. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Le marché parisien lui reste pour le moment dans le vert, mais on s'est éloigné des plus hauts du jour. On ne progresse plus que de 0,7%, 5717 points. Qu'en pense un de nos traders, Stéphane Sauduteil, dans un instant. Et puis vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site. Et puis notre partenariat, Les Échos. Quels sont les meilleurs placements pour chaque génération, que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, eh bien, Les Échos Patrimoine vous guide en partenariat donc avec BFM Business. C'est la une que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui dans vos kiosques.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h passé de 33 minutes, on file sur le marché grâce à Stéphane Sauduteil qui nous attend chez Technibourse et qui suit pour nous la séance, cette dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre. Stéphane, ça se montre un peu hésitant, on va dire, parce que certes, on est toujours dans le vert et plus 0,7, beaucoup pourraient s'en contenter, mais on était beaucoup plus haut il n'y a encore pas si longtemps.
Oui, c'est vrai. Les chiffres de l'inflation en Europe ont peut-être refroidi un tout petit peu l'ambiance, hein, puisqu'on est à 10%, un petit peu comme l'Allemagne, même si en France, on avait un peu moins d'inflation que prévu. Ça n'a pas suffi pour faire basculer un petit peu plus bas notre statistique européenne sur l'inflation. Bon, rien de particulièrement méchant à l'heure où on parle. C'est vrai que d'un point de vue graphique, comme on a une clôture fin de mois, ça serait intéressant de réussir à clôturer ce mois au-dessus des 5725 points, c'est-à-dire au-dessus du niveau sur lequel on est à peu près actuellement. Ça permettrait peut-être d'espérer une petite reprise technique, comme je vous le disais, à 10h30, vers 5800, voire 6000 points. Au-dessus de 6000 points, pour le moment, je pense que le cœur n'y est pas, le contexte n'y est pas. Alors, on n'est pas à l'abri, bien entendu, hein, de revenir de nouveau sur la zone de points bas de ces derniers jours, hein, autour des 5620, 5660 points. On a l'impression que les supports se sont organisés autour de cette zone. Alors, peut-être avec des achats à bon compte, on voit beaucoup quand même de gérants dire que dans une optique long terme, 5600, c'est quand même une zone intéressante pour revenir sur les marchés d'actions. Donc, ceci explique également cela. Et puis, comme je vous le disais, il y a quand même un sentiment négatif aux États-Unis qui est peut-être un peu trop négatif. Hein. On a une douzaine de pourcents d'investisseurs haussiers, autant dire que c'est pas beaucoup. Donc, souvent, le marché a tendance à prendre le contre-pied. Il y a encore un peu plus d'un mois de cela, on avait 81% d'investisseurs haussiers sur le SP500 et on a vu ce qu'il est arrivé. Donc, ça a baissé. Donc, on surveillera aussi quand même l'euro-dollar. L'euro-dollar est dans une belle correction technique. On pourrait revenir sur la parité, ça sera compliqué peut-être de réussir à la franchir, mais c'est peut-être pas impossible dans les jours qui viennent de revenir tester cette parité. Serait beaucoup mieux par contre si on s'installait au-dessus de 1, on pourrait peut-être de nouveau viser les 1,02 voire 1,04, mais pour l'instant c'est quand même un petit peu loin des niveaux actuels. Alors avant cela, il n'est pas exclu non plus qu'on revienne chercher un petit peu cette zone de point bas, mais le point bas de cette semaine est peut-être quand même assez majeur sur la parité. On a vu la violence de ce rebond baissière, mais je pense qu'on aura du mal quand même à enfoncer de nouveau ce point bas. Et puis, bien sûr, la reprise de l'euro-dollar a donné un petit peu d'élan aux métaux précieux hein, qui souffraient avec cette baisse lancinante de l'euro-dollar. Donc l'or et l'argent se sont repris quand même significativement et réintègrent quelques niveaux de support assez intéressants. Et puis le Bitcoin, bien sûr, est corrélé au Nasdaq. On est sous les 20 000, mais on n'arrive pas à passer plus bas, hein, c'est-à-dire sous les 18 000, 17 600, 18 000. C'est une grosse zone de support. Faudra pas l'enfoncer non plus parce que ça serait un mauvais signal peut-être envoyé au Nasdaq ou éventuellement une baisse du Nasdaq qui pourrait se répercuter sur le Bitcoin. Donc là, autour des 11 100 points sur le Nasdaq, c'est vraiment une zone qui me semble être crucial puisque ça correspond au point bas de juin dernier. Donc surveiller quand même ces niveaux qui pourraient, s'ils étaient cassés, nous amener beaucoup plus bas. Mais on a l'impression que la résistance s'organise autour de ces niveaux. Et sur le CAC 40, c'est ce niveau. Si on corrèle ça au Nasdaq, c'est 5620, 5660.
Merci beaucoup à Stéphane Sauduteil, donc Technibourse, qui nous accompagnait ce matin tout au long de la matinée pour suivre les fluctuations de ce marché parisien. Marché parisien qui progresse de 0,7% pour le moment. On est actuellement à 5723 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et ce sont les équipes de Morningstar qui nous accompagnent comme chaque vendredi. Bonjour Mara Dobrescu.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, vous nous parlez des fonds d'obligations high yield.
Oui, ben de quoi s'agit-il ? Donc, ce sont des fonds qui investissent en obligations de notation de crédit spéculative, donc avec une note inférieure à triple B-. En Europe, ça va couvrir de la dette d'entreprises comme Casino, Faurecia, Iliad ou Renault. Des sociétés donc qui sont en général très endettées, ce qui fait que leurs obligations doivent offrir un rendement élevé pour compenser l'investisseur contre un éventuel risque de défaut de paiement. Alors, ces fonds investis en dette à yield en euros, ils ont eu pas mal le vent en poupe ces dernières années tant que les banques centrales arrosaient les marchés de liquidités et tant que la baisse des taux conduisait les investisseurs à chercher le rendement là où ils se trouvaient, à savoir sur les segments de marché plus risqués. Sans surprise, c'est beaucoup plus compliqué là depuis le début de cette année. D'une part avec la remontée des taux puisque les obligations sans risque sont devenues plus attractives et d'autre part avec les craintes d'une récession économique mondiale qui font planer ce spectre d'une cascade de défauts de paiement sur les entreprises.
Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de vendre ?
Alors, vous n'allez pas être surpris, Cédric. Il vaut mieux éviter de céder à la panique dans ce genre de moment, plutôt rester concentré sur le long terme. Selon la plupart des gérants que nous couvrons, les fondamentaux des entreprises, même celles qui sont très endettées, sont quand même plus sains aujourd'hui comparé à la période d'avant la crise financière de 2008, par exemple. La plupart des gérants d'obligations high yield s'attendent en fait à ce que le taux de défaut des entreprises, même s'il augmente, reste quand même en deçà des moyennes historique et alors que les valorisations sont plutôt à la casse, c'est vraiment le moment où les gérants aguerris vont pouvoir saisir des opportunités et c'est un contexte où l'analyse fondamentale révèle tout son intérêt.
Quelques idées de fonds à nous conseiller du coup ?
Oui, alors donc c'est comme je disais un segment de marché assez risqué. Peu efficient, donc il y a beaucoup d'asymétrie d'information. Pour une fois, ça veut dire que c'est idéal pour la gestion active qui obtient de meilleurs résultats que les fonds passifs sur le long terme. On peut mentionner plusieurs idées. Le HSBC GIF Euro High Yield, c'est un fonds noté Gold avec le même gérant aux commandes depuis près de 20 ans, Philippe Higigabel. Et sur cette période, le fonds n'a eu aucun défaut de paiement sur les entreprises en portefeuille. Ça, c'est un résultat vraiment remarquable. On peut aussi citer le Candriam Bonds Euro High Yield. Il est noté Silver sur sa part la moins chère. Là aussi, une approche fondamentale de grande qualité. Et à noter que compte tenu du manque relatif de liquidité de ce marché à yield, c'est un fonds dont les gérants n'ont pas hésité à fermer les nouvelles souscriptions lorsqu'il le fonds risquait de devenir trop gros pour préserver l'intérêt des portefeuilles. Ça, c'est très vertueux selon nous, même si le fonds a depuis rouvert aux souscriptions. Et enfin, le Robeco Euro à yield avec un duo de gérants stable depuis plus de 10 ans. Là aussi, une stratégie très attentive aux valorisations. Un fonds qui se classe sur le long terme parmi les meilleurs de sa catégorie Morningstar obligations euro au rendement. En termes de performance, il a aussi obtenu notre meilleure note, qui est la note Gold.
Merci beaucoup, Mara Dobrescu, donc Morningstar, qui nous accompagne régulièrement le vendredi pour quelques idées de fond. Le marché parisien, pour le moment, toujours en hausse, mais ça semble délicat de maintenir un cap clairement aussi. On ne gagne plus que 0,6%, 5712 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur notre site BFM Patrimoine, sur notre mail, pardon, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr, eh bien, on retrouve François Monnier pour la rédaction d'Investir et Eric Blaine pour Swiss Life Gestion Privée. Prêts, messieurs?
Absolument.
On est prêts.
Allez, on démarre avec vous, François, et c'est Frédéric qui vous écrit. Comment expliquez-vous qu'Alten baisse autant alors que la société a démontré depuis de nombreuses années de belles performances, même dans des périodes difficiles?
C'est vrai que c'est une société qui est plutôt bien gérée et qui a montré qu'ils arrivaient à faire une performance de façon régulière, année après année. Et on a encore eu un bel exemple de performance au premier semestre, puisque on a eu une entreprise qui a affiché une croissance organique de l'ordre de 20%, qui a amélioré ses marges, maintenant avec une marge opérationnelle qui dépasse les 11%, alors qu'ils ont augmenté les salaires d'une dizaine de pourcents. Donc la hausse des salaires dans un marché qui est un peu tendu, parce qu'avec Alten, on est dans du conseil en R&D, montre que voilà, ils arrivent à défendre leur marge, afficher de la bonne croissance. Toutes les activités sont en développement, même l'automobile où on se pose beaucoup de questions, on voit que les constructeurs ont du mal, mais ils ont besoin des ingénieurs d'Alten. L'automobile, il faut voir que c'est à peu près 17% de l'activité d'Alten, mais on a besoin d'experts pour gérer le cycle de vie du produit, pour travailler sur la décarbonisation et puis pour également travailler sur la voiture autonome. Et donc la demande, elle est là. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, on est sur un titre qui bat près de 30%, parce que, j'ai envie de dire, il est emporté par les ventes sur tout le secteur des valeurs technologiques. Et on a tendance à vendre un petit peu sans distinction. Mais la société, j'ai envie de dire, si on fallait en retenir qu'une dans le secteur vaste des SS2I, je pense que c'est Alten, parce qu'on est vraiment sur un management de très grande qualité, pas de dette. Il y a même du cash pour faire encore des petites acquisitions. Et dans un univers où les taux montent, il faut éviter les sociétés qui sont trop endettées. Donc on est vraiment sur un bilan solide, un compte de résultats dynamique. Et donc on est une société qui est capable d'affronter n'importe quelle crise.
Et du coup,
on reste à l'achat sur Alten, absolument.
Vous avez un regard sur Alten ou pas ?
Oui, je suis d'accord avec François sur ce qui a été dit. Nous, en portefeuille, on a du Capgemini qui avait acheté dans ce secteur-là Altran il y a à peu près 2 ans, hein, si je me souviens bien, donc sur la R&D externalisée. Aujourd'hui, vu les cours de Capgemini, on préfère Capgemini et renforcer Capgemini parce que c'est plus américain, plus exposé en fait, d'une manière générale, à la digitalisation de l'économie avec des très bonnes solutions qui performent bien avec des belles marges aux États-Unis. Les discours du président étaient très rassurants sur leur activité. Donc, il n'y a pas de raison de se diversifier aujourd'hui, vu les cours de Capgemini, mais Alten, c'est très bien. Et surtout, ce que je remarque en plus, c'est que la création de valeur est restée identique, alors qu'en termes de capitaux employés, on payait ça autour de 2,8, 3 fois. On n'est plus qu'à 1,6, donc les cours ont beaucoup baissé. Et c'est vrai que les performances sont restées extrêmement positives. Donc, c'est bien Alten.
Voilà, Frédéric, c'est bien Alten. Question de Laurence, qui ne comprend pas la descente aux enfers de Saint-Gobain et qui voudrait recueillir votre analyse, Eric.
Alors, c'est vrai que Saint-Gobain, vaut mieux prier. Hein. Ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé parce que le secteur de la construction a été très touché. On a vu à la fois des profit warnings aux États-Unis sur l'ensemble de la construction non résidentielle, sur les grands chantiers. On a eu Kingspan, un concurrent sur ce secteur-là, qui a fait un profit warning. Donc ça a touché Saint-Gobain. On a aussi vu les coûts de l'énergie en forte hausse. L'année dernière, on avait un coût de l'énergie pour Saint-Gobain de 2 milliards en 2021. Cette année, on est sur les 3 milliards d'augmentation de coûts supplémentaires. Donc on a vraiment... Saint-Gobain produit des verres, donc ça se fait avec de l'énergie, hein, bien sûr. Donc ça a beaucoup pesé, il faut bien reconnaître. Pourtant, le management quand même bouge et fait des bons arbitrages, contrairement à ce qui s'est passé auparavant. Ils ont cédé plus de 6 milliards de chiffre d'affaires sur les dernières années. Ils ont réinvesti alors sur leur métier, leur cœur de métier, dans des sociétés qui n'étaient pas trop grosses de manière à pouvoir les intégrer facilement et pas déstabiliser le bilan. Ils l'ont fait avec des sociétés qui étaient sur des créneaux spécifiques, donc avec des marges supérieures. Donc ça améliore en tendance la marge. Donc ça, c'était plutôt bien fait. C'est nouveau quand même chez Saint-Gobain. C'est une bonne chose. Financièrement parlant, c'est mieux géré. Donc il y a un vrai changement. Et puis toute cette rénovation en Europe avec cette transition énergétique va bénéficier à Saint-Gobain et lui donne d'ailleurs, à chaque publication, raison au management de dire que les choses vont mieux. Donc, on est sur des tels cours aujourd'hui et tels niveaux. On est revenu sur des PER 2023 de 6,7 fois, un rendement de 5%. Moi, ça m'intéresse. Je pense qu'on est trop bas. Le marché a exagéré, oui.
Bon. Vous êtes aussi optimiste, entre guillemets, sur Saint-Gobain ou plus réservé?
Oui, je pense que dans le secteur, c'est une des meilleures. Là aussi, c'est un peu comme Alten. Mais c'est vrai que le marché doute, alors que le management est confiant, parce que le marché de la rénovation est quand même extrêmement porteur. Mais en fait, c'est comme ça, un management qui est plutôt jeune, qui va vivre, qui vit sa première crise. Il faut gagner.
Il y a une part de doute, quoi.
Il faut un peu gagner ses galons au combat. Donc, il va falloir démontrer que, certes, Saint-Gobain est une cyclique, peut-être parfois qualifiée de cyclique tardive, mais elle arrive à défendre sa marge et à montrer qu'ils ont du pricing power pour continuer à croître et à se développer. Donc on a envie de faire confiance au titre et au management, mais c'est vrai que l'action est aujourd'hui sous pression.
Voilà donc pour le cas de Saint-Gobain. On passe à cette question, François, que vous envoie Ali. Quel conseil donnez-vous sur Française des Jeux au cours actuel ?
Française des Jeux, il faut voir que c'est un modèle économique qui est plutôt résilient, résistant. On n'attend pas de miracle quand on achète la FDJ. C'est une croissance moyenne, un peu molle, de 2 à 3%, mais quels que soient les contextes. Et donc, dans le contexte actuel où on parle de plus en plus de récession, c'est intéressant de se dire on a un acteur qui va, bon an, mal an, faire 2 à 3% de croissance. Donc oui, c'est intéressant au cours actuel d'avoir...
L'IR, ça ne subit pas l'arbitrage, quoi. C'est pas de la...
C'est pas de l'arbitrage.
C'est pas de la consommation discrétionnaire, quoi.
Absolument. Ça veut dire que c'est presque de la consommation récurrente.
Ouais, c'est ça.
Et ils ont un monopole sur la loterie. Et là, ils essaient de se développer en faisant des acquisitions, notamment dans The Turf, pour se développer sur deux piliers. Le pilier de dire, il faut qu'on aille sur la vente les paris sur Internet. Paris sur Internet, c'est un marché qui est en très très forte croissance. Globalement, la FDJ, c'est 2 à 3% de croissance, mais les paris en ligne, c'est 20%. Mais il y a la concurrence, elle est très très rude. Donc FDJ peut le faire, mais je veux dire que par acquisition. Ils ont les moyens, et c'est pour ça qu'ils rachètent The Turf, qui est un acteur fort dans l'hippisme, dans les courses hippiques, et dans les paris avec le poker. Et donc, on peut penser que le poker plus la vente de produits sur Internet, eh bien, ça va permettre de dynamiser le modèle économique de la FDJ. Le seul point faible aujourd'hui de la FDJ, j'ai envie de dire, la stratégie elle est très très bonne, c'est qu'il y a un débat, en tout cas il y a du suspense sur l'utilisation du monopole sur la loterie, puisque la Commission européenne a demandé une enquête pour voir si le prix qu'ils avaient payé au moment de l'introduction en bourse était le bon pour bénéficier de ce monopole. Et donc on aura le verdict à la fin de l'année, et une fois que ce verdict sera levé, je pense qu'il y aura un beau rallye haussier sur le titre.
C'est un titre que vous regardez, vous, FDJ ?
Alors, il est un petit peu dans les mandats, donc on les conserve, mais en ce moment, c'est pas ce qu'on achète en ce moment. C'est-à-dire que la période défensive, absolument sur les marchés, d'investir sur des titres qui ont ces caractéristiques-là, je crois qu'on a tellement baissé aujourd'hui que c'est d'autres titres sur lesquels on s'intéresse, parce qu'il y a des capacités de rebond. Je pense, la Française des Jeux a ce catalyseur sur le cœur de métier, mais ça viendra pas d'ici la fin de l'année. Donc s'il y a un rebond, ça sera pas sur la Française des Jeux, je ne crois pas. C'est juste très défensif, et on est sur un PER de 17, donc c'est pas passionnant non plus.
C'est pas très séduit, quoi.
Bon, moyen, quoi.
Non, on avait cru comprendre. Allez, on va voir ce que vous répondez à Rémi, qui a acheté de l'Airbus, et contrairement à ses espoirs, les moteurs du titre semblent à l'arrêt. Que faire ? C'est un fan, il prend les mêmes jeux de mots que vous.
Bah, il a raison, c'est vrai que Airbus, il y a eu... Ça a baissé sensiblement quand même, hein. On est plus de 21% de baisse depuis le début de l'année. Il y a eu un Investor Day qui quand même devait rassurer, puisque la direction maintient l'idée qu'il y aura 700 avions qui seront produits cette année, alors qu'on est sur le bout de 8 mois à 382. Donc le marché était très inquiet là-dessus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même impressionnant. C'est un vrai univers Airbus, hein. Il y a 7000 sous-traitants, 10000 fournisseurs, c'est pour arriver à faire la cadence et augmenter ses cadences, c'est quand même incroyable, quoi. Donc là, le message de cette journée investisseur est positif. Donc on a un vrai succès de la gamme monocouloir, la 320, la 320 Neo, la 350. Donc on a vraiment un gros succès par rapport à Boeing. Il y a des commandes, ça c'est quand même une grosse visibilité. Il y a une expo dollar qui est importante. Il y a une expo défense qui va profiter avec les Allemands qui investissent quand même massivement dans la défense maintenant, même s'il y en aura une partie pour les États-Unis. On a une société qui n'a pas de dette, avec une forte hausse de l'EBIT les chiffres ont été maintenus sur l'année 2022, c'est-à-dire 5,5 milliards. Le consensus est à 7 milliards l'année prochaine. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont positivement. On a une société qui se paye beaucoup moins cher avec un PER de 13-14 fois l'année prochaine, alors que les investissements massifs sur le renouvellement de la gamme a été fait. Donc on a une vraie augmentation de l'EBIT. Moi je suis d'accord, je pense que on paye cher aujourd'hui ces inquiétudes sur les cadences de production. Il y a eu la démission du directeur financier qui n'a pas aidé, et pourtant l'investor day s'est plutôt bien passé. Il y avait beaucoup de prudence à ce moment-là. Je pense que dans un rebond de marché, là pour le coup, c'est une valeur qui va remonter. Les moteurs vont se réallumer.
Bon, Airbus, trop d'air ou pas trop d'air ?
Oui, là, j'essaye
de rester dans
une conviction forte, le jeu de mode d'Eric. Mais c'est une conviction forte d'investir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que le titre, il a baissé, mais pour des mauvaises raisons. Il a baissé parce que le marché, baissait, alors que les fondamentaux sont extrêmement solides. Et on est sur une des valeurs qui va être une des rares sociétés à être capable de croître et d'améliorer ses performances financières en 2023. En 2023, on est toujours sur une accélération des cadences de production. Donc le meilleur est pour demain. Et on aura un effet de l'art qui va commencer à se ressentir sur 2023. Et donc on aura aussi des éléments qui seront positifs, alors que le principal concurrent, lui, souffre d'un dollar élevé, qui est Boeing. Et donc et l'activité défense a été complètement ignorée de la part des investisseurs, parce qu'ils se sont concentrés sur des purs players dans la défense, comme des acteurs comme Thales, qui ont fait un superbe exercice 2022 en bourse. Et donc 2023, je pense que ce sera l'année d'Airbus. Donc oui, il faut se positionner aujourd'hui.
Donc tout le monde est plutôt confiant sur une reprise d'altitude. Question de Yann, fan des baskets Nike, nous dit-il. Je peux acheter aussi l'action ou c'est une bêtise ?
Moi, je pense que c'est mieux d'acheter des baskets que l'action. Parce que Nike, c'est un peu comme le secteur du textile. On en a déjà parlé ensemble. C'est un secteur qui, en période d'inflation, se comporte très très mal. Nike, c'est un titre qui a connu un plus haut en novembre 2021 et qui a profité à plein du confinement où tout le monde voulait essayer de faire un peu de sport avec une belle tenue. Et là, on a quand même quatre impacts qui sont négatifs sur le titre. D'abord, ils ont fait un profit warning cette nuit. Mm-hmm. Ça montre que la situation est quand même compliquée. On a trop de stock, probablement en Amérique du Nord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la demande des ménages, on voit bien, elle faiblit. Avec la hausse de l'inflation, ils sont bien équipés, il y a des arbitrages et peut-être qu'on achète un peu moins d'équipements sportifs. Et on a un effet devise qui est défavorable, donc ça c'est le troisième point. Et enfin, on observe un vrai ralentissement en Chine. En Chine, c'est un marché important pour Nike, hein, c'est à peu près 16% de l'activité. Avec en plus, non seulement il y a un ralentissement du fait du confinement et des multiples confinements en Chine, mais il y a un nouvel acteur qui est en train d'émerger et qu'on va parler de plus en plus dans les mois et les années qui viennent, qui s'appelle Anta Sports. Et c'est le Nike, chinois, qui est en train de détrôner Nike en Chine. Et ça, la concurrence va être très très vive. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut absolument éviter Nike aujourd'hui.
C'est quelque chose que vous regardez ou pas, vous?
C'est pas notre premier choix.
C'est pas votre premier choix. Allez, on termine. Il vous reste une petite minute pour répondre à Colline. Les banques semblaient pouvoir profiter d'un environnement de hausse de taux. Cela n'a pourtant pas été le cas cette semaine. Qu'est-ce que Colline fait de ces BNP Paribas?
Elle les garde précieusement. Ah. Moi, je vous renforce. Donc, oui, sur les financières, je pense qu'on a effectivement une belle baisse là sur la semaine qui vient de s'écouler, même les 10 derniers jours. Et donc, c'est des occasions quand même intéressantes. BNP est extrêmement solide. Ils ont vendu Bank of the West, donc là, il y a beaucoup de cash. Ils ont annoncé des programmes de rachat d'actions importants. Il y a un dividende qui représente 8,9%, je crois, de rendement. Donc, on est sur un PER de 6 fois 2023. On a quand même des taux d'intérêt qui sont en train de remonter, ce qui va aider tout la partie banque commerciale, et c'est vraiment important puisque c'était une partie qui avait été pénalisée sensiblement, donc les performances de l'ensemble des banques. Hein. D'une manière générale, la BNP est très diversifiée et donc en fonction des évolutions, ils arrivent à équilibrer leur croissance de bénéfices par cette diversité. C'est une banque très solide et bien gérée. Bon. Donc moi, je suis acheteur de BNP en ce moment avec plaisir.
En deux mots, acheteur aussi des banques et de BNP.
On a un rendement de près de 10%, ouais. Donc c'est intéressant. Et puis, il y a un niveau de valorisation qui est extrêmement faible. Hein. Ça se paye moins de 5 fois, ça se paye moins de 2 fois donc, par rapport à la moyenne du marché. Et au niveau du timing, après la forte baisse, je pense que techniquement, à court terme, c'est une bonne idée.
Merci à tous les deux. Donc, François Monnier, Investir, Eric Blaine, Swiss Life, Gestion Privée, répondait ce matin à toutes vos questions. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sandra Gandoin et 60 Minutes Business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Pour terminer la semaine.
Et oui, on va parler de cette nouvelle réunion de crise des ministres européens de l'énergie pour faire baisser les prix. Les 27 sont parvenus à un accord pour soulager les ménages et les entreprises. On en parlera avec Thomas Sasportas. On reviendra sur les chiffres de l'inflation qui ralentit en France en septembre. Les prix qui progressent de 5,6% sur un an, c'est bien moins important que la Belgique et les Pays-Bas. Pierre Kupferman nous dira pourquoi. Et puis, à quelques semaines de l'entrée en hiver, la consommation d'énergie et surtout les économies réalisées par les entreprises vont être scrutées à la loupe. Nous aurons le président de la FEDEN qui sera avec nous pour parler de ces économies possibles. Et puis, à 12h30, évidemment, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
C'est à suivre. 60 minutes business. Dans un instant, le marché, lui, a réduit un petit peu sa marche en avant. Il reste dans le vert, c'est assez appréciable, un plus 0,8, mais on est loin des plus hauts du jour. C'est la dernière séance de la semaine et surtout du trimestre. Il y aura donc quelques arbitrages, peut-être cet après-midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous lundi matin et je vous souhaite un très bon week-end.